Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. Ce soir, c'est Sarah qui nous emmène du côté de Nantes. Rappelez-vous, le mois dernier, elle vous avait parlé du club de football Nick FC, un club nantais, queer et militant. Elle s'est entretenue plus longuement avec Capucine Demuseau, cofondatrice du club, et vous propose un reportage en immersion. On écoute ça tout de suite.
Le milieu du football et du sport en général n'est pas particulièrement inclusif, on le sait. Machisme, sexisme, homophobie, transphobie, racisme. Comment trouver un endroit où il fait bon d'être soi-même ? Amateuriste de football, Nantes l'a fait. Nick FC est un club de foot queer, féministe et militant à Nantes. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Capucine, membre de l'équipe.
Salut.
Donc si on peut commencer déjà doucement, toi, ton parcours avec le foot.
Moi, je ne suis pas une très grande footballeuse. J'ai fait un trimestre, je pense, de foot en club quand j'avais 7 ans, quelque chose comme ça, dans une équipe de garçons. Ça s'est vite arrêté parce que c'était dans une équipe de garçons. Et c'est à peu près tout. Mais après, j'ai toujours fait vachement de sport depuis toujours. J'ai fait pas mal de basket et j'ai fait surtout du roller derby depuis 8 ans, presque 9 ans. Et voilà, c'est ça mon parcours sportif. Et après, du foot, j'en ai fait de manière récréative avec des potes en été, sur la plage et tout. Mais c'est à peu près tout.
Justement, tu as dit que tu avais arrêté parce que c'était une équipe avec surtout des garçons. Pourquoi ? C'était quoi le problème ?
Bah, des garçons de 7 ans, c'est pas les plus fins, quoi. Déjà, des garçons, c'est pas les plus fins. mais j'ai fait aussi du rugby et il s'est passé exactement la même chose. C'est que j'étais la seule meuf dans l'équipe de foot. Du coup, j'étais reléguée au vestiaire arbitre pendant que tout le monde célébrait la victoire et faisait ses trucs ensemble dans le vestiaire. Donc, j'étais assez exclue de l'équipe. Et puis après, j'étais... traité comme une meuf, quoi. En même temps, j'en suis une, mais selon tous les clichés que tu peux rencontrer dans le sport, tu vois, genre j'étais jamais mise en attaque parce que de toute façon, je pouvais pas trop marquer de but.
Salut, Eudie, ok, ça va ?
Ça va.
Est-ce qu'on fait un tour des prénoms ? Ça vous dit ? Moi, Céline, c'est elle.
Laura, elle, Yel.
Yasmine, il, elle.
Anso, elle.
Marie, elle.
Chloé, elle.
Maïlis, elle.
Elle.
Eudie, elle.
Juno, elle.
Ton parcours avec le militantisme ?
Mon parcours avec le militantisme, il est assez lié avec mon parcours sportif parce que moi, j'ai commencé à rencontrer le militantisme quand j'ai commencé le roller derby, qui est un sport qui est assez politisé et militant. Je sortais de ma petite famille bourgeoise blanche CSP+, de l'Armor-Plage, et j'ai commencé à rencontrer des gens très différents, avec des points de vue politiques très différents de ceux dans lesquels j'ai été baignée, et ça m'a bien éduquée, bien déconstruite sur pas mal de points un peu classistes qui pouvaient exister dans mon éducation. Et du coup, j'ai commencé à me questionner vachement, à me documenter, etc. Je suis partie à Toulouse, qui est une ville quand même assez militante aussi, où j'ai pu continuer à apprendre vachement et à m'attacher à la cause du féminisme et à commencer à aller en manif, à rencontrer des gens militants, politisés, etc. Depuis, je continue à construire mon militantisme au fur et à mesure de mes rencontres et de mes lectures, quoi.
On est 2 au milieu. Ça fait
3 au milieu.
3 au milieu et ouais. Sinon, on en fait 2. Hein. On fait 2 petits.
2 petits taureaux.
Je sais pas si ça ressemble à quelque chose de faire
petit.
Alors là.
On
fait un grand et après on avisera.
Nick, N-I-Q, comme nébuleuse inclusive et queer. On peut peut-être revenir sur ces trois mots. Est-ce que tu peux nous donner la définition de ces trois mots et pourquoi vous les avez choisis?
Ouais, carrément. On a défini ces trois termes sur notre réseau Insta et Facebook, NICFC. Faut savoir que le nom, il vient de l'anagramme. On est parti de Nick. On voulait, avec la cofondatrice Eudie, que le club s'appelle Nick parce que c'est un rappel à tous les slogans qu'il peut y avoir dans les milieux militants, genre Nick la police, Nick le patriarcat. Et du coup, on était en mode, allez, Nick le football, on va faire une équipe queer. Et du coup, genre, pour la blague, on voulait que ça s'appelle Nick. Nébuleuse, c'est un amas diffus de gaz et d'étoiles. Enfin, les nébuleuses, c'est les pouponnières à étoiles, c'est là que ça se crée, mais que ça peut mourir et tout, etc. Et en fait, c'est genre cette idée d'amas diffus qui change, dans lequel il y a plein d'entités différentes qui évoluent ensemble, qui grandissent ensemble, qui font évoluer la nébuleuse. Donc c'était vraiment pour dire que notre club, il est pas figé, il va bouger en fonction des gens qui arrivent et qui partent et de ce que ces personnes ont à nous apporter. Et c'était cette idée d'être, on a défini des valeurs, etc. Mais on est toujours dans une perpétuelle recherche de déconstruction et de développement. Du coup, on va apprendre, on va se remettre en question et on va faire de la place à tout le monde qui vient avec son histoire et ses valeurs et avancer ensemble, quoi. Pour le inclusive, c'est dur de faire un espace qui est complètement safe, mais nous, on veut s'en rapprocher au maximum. C'est sûr qu'on fera des efforts, qu'on fera des erreurs et qu'on en a peut-être même déjà faites, mais en tout cas, on reste toujours hyper à l'écoute pour rester le plus safe possible, pour que tout le monde se sente bien et pour faire de la place à vraiment tout le monde. On est une équipe qui évolue en mixité choisie sans hommes cis, et pour vraiment créer un espace à toutes celles qui n'en ont pas normalement dans le sport. On est dans une démarche de lutte anti-politique intégrationniste, anti-racisme, anti-grossophobie, toutes les merdes qui existent dans nos sociétés, quoi. On essaye d'être le plus safe possible et on est un espace qui est principalement débutant aussi pour ça, parce qu'on veut que vraiment il n'y ait pas de questionnement sur est-ce que j'ai vraiment la place là-dedans. Si t'es pas un mec cis, t'as ta place chez NICFC, et c'est ce qu'on essaie de formuler, quoi.
Safe, je rappelle pour les gens qui nous écoutent que safe, c'est un milieu où on se sent en sécurité et en confiance.
Tu vois, on parlait par exemple tout à l'heure du fait que t'es venu à l'entraînement et qu'il y a eu ce tour de prénom pronom en début d'entraînement, et en fait ça, c'est un truc, même si on commence à se connaître, à se voir, on va le faire à chaque fois pour qu'à chaque fois, si jamais il y a de nouvelles personnes qui arrivent, elles soient incluses dans cette démarche là et enfin, on essaye de mettre en place tous ces petits mécanismes là. Il y a des personnes qui étaient là depuis le début, qui n'avaient jamais eu besoin de parler de leur pronom parce que c'est des personnes cis, et qui ont genre grave compris que c'était nécessaire de le faire dans cet espace-là, et il n'y avait pas de problème, tu vois. Donc voilà, on essaie de trouver des clés pour mettre en confiance tout le monde qui vient. Et après, dans notre, c'est une grosse discussion qu'on a aussi dans notre façon de coacher, de réussir à pas être dans la mise en avant de la performance sportive, mais juste sur le fait de participer, quoi. Donc au niveau de l'inclusivité des personnes débutantes, on est une grande majorité de débutantes. Moi, j'ai fait un trimestre de foot dans ma vie et je suis coach, donc ça en dit long sur le niveau qu'on a. Et du coup, ouais, on essaie de mettre en place, on réfléchit beaucoup à comment être le plus safe possible, mettre le plus à l'aise possible les gens qui viennent, etc.
Ça fait plusieurs fois qu'on dit le mot 6, donc toujours pour les personnes qui nous écoutent, 6, ça vient de 6 genres, et c'est quand on est en accord avec le genre qu'on nous a assigné à la naissance. C'est-à-dire que si quand on nous assigne femme ou homme, on est en accord avec ça, et c'est l'inverse de transgenre. Et justement, si on venait au dernier mot, le mot queer.
Queer, alors juste pour inclusive et queer et allié, je prétends pas pouvoir pondre des définitions parfaites de ces termes-là, parce que, comme je te disais, je pense qu'il y a autant de définitions du mot queer qu'il y a de queer. Chacun a son vécu et sa reconstruction, entre guillemets, qui permet de construire une définition d'une façon ou d'une autre. Moi, du coup, je me suis vachement entourée pour construire cette définition de queer en utilisant mon réseau du roller derby, parce que comme je le disais, le roller derby est un sport qui est assez militant, et on a un groupe de discussion qui s'appelle Féministe à patins, qui est très bienveillant et dans le débat et la remise en question, tout ça. Et du coup, j'ai posé la question sur ce groupe et on a, avec les membres du groupe, co-construit une définition de queer que j'ai pu confronter après à d'autres potes que je trouve instruits sur le sujet et qui pouvaient me faire des retours. Du coup, cette définition, elle n'est pas que la mienne et elle est sûrement... elle sera peut-être fausse pour certains, mais pour moi, ça se rapproche vraiment de ce que je pense est queer. C'est une personne qui n'adhère pas aux idées de binarité, d'orientation de genre et d'orientation sexuelle et qui ne veut pas être catégorisée selon les normes hétéropatriarcales du système. Et c'est une personne qui va être antisexiste, antiraciste, qui refuse genre toutes les formes d'oppression intégrationniste qui existent. Pour moi, au-delà d'être quelqu'un de la communauté LGBTQIA+, c'est aussi quelqu'un qui va être dans une démarche politisée et militante. Parce que rien que dans le terme, queer, c'est un terme politique, donc si on se l'approprie, c'est qu'on est un minimum politisé. Après, voilà, la personne queer pour moi est militante. Je nuançais un peu le terme dans le précédent enregistrement qu'on avait fait, parce qu'il y a des gens qui vont avoir en tête que militant, c'est aller jeter des cocktails Molotov tous les week-ends sur les CRS, ce qui existe aussi et ce qui est nécessaire à mes yeux, mais c'est pas la seule forme de militantisme qui existe. Le militantisme vient sous plein de formes différentes. Écrire un livre, c'est militant. Créer un espace safe, c'est militant. Rejoindre un espace safe queer, c'est militant. Voilà, il y a plein de façons d'être militant, mais pour moi, la personne queer l'est dans une de ces façons ou dans plusieurs d'entre elles.
C'est super stressant. J'ai l'impression que ça marchera jamais. Voilà. Non, c'est bien.
Moi j'ai découvert le club tout simplement parce que je connais Eudie et Capu pour faire du foot entre meufs, enfin en tout cas pas d'hommes cis, et on a tous envie un peu de se défouler, d'aller courir et de rencontrer des gens surtout, je pense. Moi j'ai jamais fait de foot, je sais vraiment pas bien jouer, mais ce qui est sympa c'est que y a pas grand monde qui a un bon niveau. On a quelques-unes qui ont déjà joué au foot et c'est cool du coup, mais c'est vrai que on n'a pas honte de ne pas savoir jouer.
Ouais.
Et du coup, c'est un peu comme une grosse récré et puis on rencontre des gens sympas, c'est vraiment agréable. Moi, je serais pas allée jouer au foot comme ça avec n'importe qui. Enfin, j'aurais eu trop honte d'une part parce que j'ai pas de niveau et d'autre part parce que ouais, on a vite fait peur de tomber avec une équipe avec que des mecs et qui veuille pas trop jouer avec toi parce que t'es une meuf et si en plus tu sais pas trop jouer, tu vois.
C'est des sessions qui durent 1 heure à peu près ?
Plutôt 2h, 2h30.
Si on prend l'exemple des Dégommeuses à Paris, donc c'est une équipe de foot majoritairement queer et militante, le club c'était d'abord un groupe d'amis qui voulaient simplement jouer au foot ensemble avant de devenir une association. Comment la création s'est-elle passée pour vous ?
Alors c'est un peu le même principe de potes qui jouaient juste ensemble. En gros, il y a 2 ans, en été, on s'est chauffé avec des potes qui... C'est un groupe de potes qui vient du collectif Us et Coutume, qui est un collectif de teufs queer sur Nantes. On s'est chauffé tous et toutes ensemble à aller faire des foot parce qu'on voulait s'occuper et avoir une excuse pour faire juste un pique-nique dans un parc en disant qu'on faisait pas que ça. Et du coup, on a commencé à faire des foot avec ce groupe-là et on a trouvé ça trop cool en fait de faire du foot entre queer, entre gens cool qui s'aiment bien et sans souci de rencontrer potentiellement des partenaires sportifs toxiques. Et du coup, on a trouvé ça trop bien et avec la cofondatrice Eudie, on s'est dit que ce serait vraiment trop cool d'avoir une vraie équipe de foot queer à Nantes parce qu'on avait vu que les gens étaient trop chauds et que ça plaisait quoi. Et aussi on voulait trop avoir un maillot pour se la péter et pour avoir un maillot il faut une équipe du coup, du coup voilà, on avait vraiment envie de monter une équipe.
On parle de queer et on parle de sport justement, quelle place pour les queers dans le milieu sportif en général selon toi, selon ce que t'as expérimenté et ce que t'en vois?
C'est une question compliquée parce que il y a une place pour les personnes queer dans le sport qui est difficile à prendre, même s'il y en a une. Quand tu regardes dans le sport professionnel, il y a entre guillemets de plus en plus, mais encore trop peu de sportifs pros qui osent faire leur coming out et qui sont d'ailleurs souvent juste gays ou lesbiennes et pas potentiellement queer. Le système français en France et dans tout le monde occidental est profondément binaire et non mixte. C'est forcément difficile de prendre sa place. Et en plus, quand les queers commencent à prendre leur place, généralement, on leur retire leurs droits. Je ne sais pas si tu as vu qu'en ce moment, aux États-Unis, il y a une vingtaine d'États qui sont en train de passer des bills pour empêcher les athlètes trans dans les universités de concourir dans la catégorie de leur genre. Ce qui est complètement débile parce que c'est surtout contre les femmes trans dans le sport. Il y a un militant sportif trans qui a posté une infographie l'autre jour sur, c'était une carte des États-Unis avec les États qui étaient en train de passer ces bills anti-trans dans le sport. Et juste après, t'avais les États dans lesquels le sport était dominé par une fille trans et il n'y avait aucun État qui était concerné. Mmh. Et du coup, genre, c'est un problème qui n'existe pas et c'est juste encore des fachos qui empêchent aux queers d'exister dans le sport, quoi. C'est essayer de contrôler les physionomies dans le sport et c'est ce qu'ils font. Déjà, depuis toujours, la Fédé internationale d'athlétisme avait interdit à Caster Semenya de courir au championnat du monde d'athlétisme parce que c'est une athlète hyper androgyne qui avait un taux de testostérone trop élevé à leur goût. Je sais pas si tout le monde voit ce que c'est l'affaire Caster Semenya, mais en gros c'est une coureuse exceptionnelle qui est hyper androgyne, donc qui a un taux de testostérone naturel plus élevé que la plupart des femmes et qui faisait des performances de ouf juste parce que c'est une athlète de ouf qui s'arrache à l'entraînement. Et en gros, les juges et arbitres de la Fédé internationale d'athlétisme trouvaient que ses performances étaient un peu trop bonnes et se sont dit que c'était sûrement parce que c'était un homme et lui ont fait passer un contrôle visuel. Donc un contrôle visuel, c'est tu montres tes parties génitales à un jury de vieux hommes cis blancs, quoi. Donc ils ont fait ça, ils ont vu que c'était bien une femme, du coup ils lui ont fait faire des tests. Et ils ont dit, ah non mais madame, votre taux de testostérone est trop haut, il faut que vous preniez un traitement pour le diminuer, sinon vous n'avez plus le droit de concourir parce que c'est injuste. Ça a juste à voir avec les femmes qui font des trop bonnes performances à leur goût et c'est tout, quoi. Ah ouais. Et du coup dans cette affaire, bah, ça a fait un peu quand même le tour de la presse sportive internationale. Il y a eu un gros procès, etc. Elle n'a pas pu participer au championnat du monde de Doha. Et l'affaire est encore en cours parce qu'ils lui demandent de prendre un traitement pour faire baisser son taux de testostérone qui est hyper nocif, qui a des effets cancérigènes potentiels, alors qu'elle, elle est en pleine santé et qu'elle veut juste pas, quoi. Donc voilà, un bel exemple de rien que la place des femmes qui performent, quoi, dans le monde du sport. Donc pour revenir à la question principale qui était la place des queers, il y a encore énormément de taf à faire pour que les queers puissent se sentir à leur place plutôt que viennent prendre leur place simplement dans le monde sportif.
C'est l'enfant qui manquait plus.
Il existe déjà plusieurs clubs sportifs LGBTQIA+ à travers la France. Pour les personnes qui nous écoutent, on va aussi dire ce que ça veut dire. Alors, L pour lesbienne, G pour gay, B pour bisexuel, T pour transgenre, Q pour queer, I pour intersexe et A pour asexuel. Mais dans le vôtre, qui vient de se créer, il y a quelque chose de réellement nouveau, il y a une dynamique, il y a une jeunesse qui se ressent, rien que dans vos visuels, on en parlera après. Est-ce que vous veniez pour la majorité déjà d'un milieu plutôt militant avant de rejoindre le club, parce que t'as dit qu'il y avait des deux?
Ouais, je dirais qu'il y a une majorité de gens qui viennent de milieux militants. Quelques personnes qui viennent quand même du roller derby, de mon équipe et tout, qui viennent pour le sport. On a été relayés par exemple par Safo Gang et grâce à ce relais, on a eu pas mal de followers et tout, donc je pense que notre communauté vient quand même profondément de milieux militants queer nantais.
Comment est-ce que tu expliques, c'est selon toi, hein, c'est très subjectif, le peu de réactions, de décisions des clubs sportifs au sujet du machisme ou des LGBT+phobies dans le milieu sportif?
Bah, le peu de réactions vient du fait qu'ils ne sont pour la plupart pas concernés. Il y a peu de gens qui sont militants queer dans les instances sportives. C'est un monde, je le répète, qui est ultra, ultra binaire et qui est non mixte depuis toujours et qui le sera encore un moment. Et particulièrement en France, en fait, on a ce problème d'avoir du mal à mettre de l'argent dans les instances sportives. Et du coup, la plupart des clubs amateurs vont être gérés par des gens qui ont le temps, des bénévoles, souvent par des personnes âgées, des retraités, etc., qui ont vraiment le temps de se concentrer. Donc c'est vrai que la moyenne d'âge des têtes de club en France est assez haute. Donc c'est des gens que ces sujets dépassent. De plus en plus, il y a quand même l'idée de se battre pour avoir plus de visibilité, plus de moyens pour les sections féminines. Mais de là à lutter contre les LGBT-phobies, c'est pas encore dans leur agenda, quoi. Il y a un réveil qui se fait petit à petit par les adhérents et adhérentes de ces clubs. Il y a quelques initiatives qui sont lancées, pas par des clubs, mais plutôt par des marques ou par des assos. Il y a par exemple le Rainbow Lace Day, qui est un truc créé par Adidas et qui est une journée de championnat de foot dans laquelle tous les joueurs et joueuses portent des lacets arc-en-ciel pour participer à la visibilisation des personnes LGBTQIA+ dans le foot. Donc c'est un début, ça reste une action de marketing quand même, donc à nuancer. Ça va venir parce qu'il y a de plus en plus d'assos et d'initiatives et d'athlètes qui prennent la parole, d'athlètes qui font quand même un petit peu leur coming out et qui acceptent d'en parler un peu plus loin. Il y a une médiatisation qui arrive doucement mais sûrement, mais c'est encore un travail de longue haleine, quoi.
Justement, selon toi encore, hein, qu'est-ce qu'il faudrait pour changer ça ? Est-ce qu'on partirait plus sur former les clubs, médiatiser comme tu le dis, punir les sportifs, les supporters ?
Comme je disais la dernière fois, la punition c'est toujours pas la solution. C'est comme, enfin pour moi c'est comme la prison, c'est pas comme ça qu'on va réussir à faire changer les avis, changer les gens, changer les mentalités. Le truc qui est primordial à faire, c'est une éducation sur le sujet qui soit efficace et qui soit globale, pas juste dans les clubs où il y a une joueuse lesbienne ou un joueur gay qui en a marre d'entendre l'arbitre est un pédé, tu vois, mais que ce soit un truc global qui soit propulsé dans tous les clubs et auprès de tous les athlètes. Après voilà, qui doit le mettre en place, c'est une autre question, mais ça passera, le changement passera par une éducation.
Est-ce que la création de votre club, au-delà du côté sportif, c'est aussi l'opportunité de créer un espace de réflexion ? Est-ce que c'est un espace de réflexion entre vous et un milieu où vous pouvez respirer ?
Ouais, carrément. Moi, avec Eudi, on a fondé le club, on a écrit des statuts et tout, mais le but, c'est vraiment que ce club ait un fonctionnement horizontal où chacun peut avoir un droit de parole sans souci. On aimerait faire des AG, on discute de nos statuts, on discute d'actions militantes. On ne peut pas pour des raisons évidentes de Covid-19, mais c'est un truc qu'on souhaite faire. Après voilà, quand on se rejoint, qu'on boit une bière à la fin des entraînements et tout, si on a l'occasion de parler de nos valeurs, on le fait, et c'est toujours avec de la bienveillance et du recul pour se remettre toujours en question, parce que il y a des gens qui ont des choses à nous apporter, des nouveaux points de vue qui peuvent être ultra intéressants, et on est dans cette démarche d'éducation, et je pense que beaucoup de gens dans NICFC le sont aussi.
Il y a un truc qu'on peut affirmer, c'est que quand on va sur votre page Instagram, ça pète. Ça, on peut pas dire le contraire. Qui est-ce qui s'est occupé des visuels ?
On est plusieurs sur le coup. Moi, je m'occupe des posts et des visuels, mais les vrais artistes de la team, c'est Eudi qui est illustratrice. Vous pouvez la trouver sur Instagram @EudiSmith. Elle fait des trucs hyper cool et hyper queer. Et du coup, c'est elle qui nous fait toutes les illus qu'on peut reposter souvent en story ou qu'on a publié sous le nom de l'œil du Nick et le petit ballon enflammé. C'est elle qui a pensé le logo, et la personne qui a fait le logo, c'est Lucie Maracay, qui est une pote à moi qui est en design et qui est hyper talentueuse aussi, et qui nous a fait les petites vidéos et les petites variations de logo.
Et est-ce qu'on peut être débutante pour rejoindre le club ?
Bah oui, c'est un grand oui. On tolère les gens qui ont un bon niveau, mais on est un club débutant. On est complètement débutant. Moi, je suis complètement débutante, et c'est moi qui coach, donc voilà, on a zéro prétention de niveau. On est vraiment juste là pour se réunir autour d'un ballon parce que c'est marrant et il n'y a pas plus d'ambition que ça, quoi. Donc c'est largement à destination des débutants.
Du coup, c'est la combienième fois que vous venez ici, vous, en session?
Moi, je pense que ça fait une bonne dizaine de fois, ah ouais. Un peu moins.
Ça se calme là.
Non, c'est la première fois.
Toi, c'est la première fois, ouais. Et tu connaissais des gens ici?
Je connaissais un petit peu.
Et c'est comme ça que t'as entendu parler du
club. Ouais, c'est ça.
Et alors, première impression?
C'est super. Il fait beau, il y a plein de gens sympas, et encore, ouais. C'est tout ce qu'il faut.
T'avais déjà fait du foot?
Quand j'étais gosse.
Toi, t'avais déjà fait?
Un petit peu à la fac, mais pas grand chose.
Ok.
Et du coup, là, ce qui est cool, c'est qu'on est tous un peu débutants. Enfin, il y en a qui en ont déjà fait, mais en vrai, on part tous un peu de zéro. Donc, c'est assez cool parce qu'on ne se juge pas trop. Justement, on s'encourage pendant les matchs et tout.
T'as trouvé comment le club?
En fait, c'est une pote qui m'en a parlé. Moi, je viens d'arriver sur Nantes. Mm-hmm. Et je cherchais un peu. Bah, je suis arrivée donc, pendant les confinements.
Donc, super.
Yes. Donc je savais pas trop comment rencontrer des gens un peu queer et tout, et puis en fait je viens de Paris et je m'étais pas mal renseignée sur les clubs qui se sont montés un peu similaires, mais vu que je savais que j'allais partir, je me suis pas inscrite et tout, et donc du coup là je cherchais ça et donc voilà.
Et comment ça se passe au niveau de l'adhésion et des éventuels tarifs, participation?
L'adhésion est facultative parce qu'on veut que tout le monde puisse venir sans souci d'assiduité, de responsabilisation dans le club, etc. Donc on reste vraiment chill là-dessus. Tu peux venir 15 fois sans prendre ton adhésion. Tu peux venir une fois et prendre ton adhésion. Tu peux prendre ton adhésion avant de venir. Si tu adhères à l'idée du club, à ses valeurs, si tu as envie de faire partie de l'asso et d'entrer dans les discussions vis-à-vis des statuts, quoi. Mais il y a zéro obligation. Pour l'adhésion, la cotise, elle est facultative aussi. Et la cotise est à prix libre parce que... voilà, enfin c'est encore une fois à quelle hauteur t'as envie de nous soutenir. Si tu veux nous aider à acheter des ballons pour l'entraînement, c'est trop cool, mais si t'as pas les moyens ou pas l'envie, c'est pas grave et t'es quand même bienvenu, quoi.
Et est-ce que vous êtes en contact avec d'autres clubs quand il y aura plus le Covid-19? Est-ce que vous avez envie de faire des tournois, des rencontres de prévues?
Ouais, grave. D'ailleurs, on a déjà deux propositions de match. On a un match qui va sûrement se faire de manière un peu illégale sous couvre-feu contre le Touffball Club de Caen, qui est, qui est une équipe qui s'est montée, bah, pareil, vers octobre, par une pote à moi qui fait du roller derby aussi. En fait, elle a fait un peu comme moi, mais à Caen. Du coup, le Touffball Club nous a proposé de venir et de nous inviter ensuite à Caen pour un match retour. On a aussi les Cacahuètes Slots qui veulent venir jouer contre nous et nous inviter ensuite à Paris. Donc, on a tout ça qui va s'organiser petit à petit au retour des beaux jours, et ce sera évidemment partagé sur nos pages pour que vous puissiez venir nous encourager.
Bah, merci beaucoup, Capucine. Et puis, pour les personnes qui nous écoutent, la page Insta, c'est NICFC, donc NIQ-FC. Et donc, si vous êtes sur Nantes ou alentour et que vous êtes tout sauf des hommes cisgenres, n'hésitez pas à aller faire un tour, en tout cas même pour regarder, parce que c'est très chouette.
Merci beaucoup.
Bon, bah, bon match.
Bonne soirée. Merci. Merci. Bonne fin de journée.
Salut.
Salut. Cette droit pour découper le ciel, égorger les dieux. Comme tout est silencieux, je refais des prières. Ne soyez pas sévères avec les orgueilleux. Je vis d'amour. Poussière, mes amis sont les rivières sur lesquelles je vogue doucement. Mon frère est au balai, ma maison est en carton. Prenez tout ce que j'ai, je vous laisse les billets. Je vis d'amour. Prenez toutes les erreurs. Je garde le cosmos tout près de mon cœur et vous rends le couteau pour étaler le beurre.
Et c'est la fin de cette Covidienne. Merci à Sarah pour ce reportage. On se retrouve quant à nous dès demain pour la dernière de la semaine. D'ici là, bonne soirée sur les ondes de Radio Campus Angers. Prenez soin de vous.